Donc rebonsoir, bienvenue pour cette deuxième séance. La semaine dernière, alors d'abord je voudrais revenir un peu sur le programme annoncé parce que au moment en fait où on donne les programmes, donc c'est l'année, c'est un peu éloigné par rapport au moment où on fait le cours, et du coup j'ai annoncé plusieurs auteurs, plusieurs choses peut-être un peu trop large, donc je vais recibler un petit peu, c'est-à-dire là pour aujourd'hui il était prévu Platon, le banquet, enfin évidemment ça reste, j'avais évoqué aussi Merleau-Ponty et Lyotard je crois, donc là je vais modifier un tout petit peu pour diverses raisons que je vais vous donner ensuite. Je pense que Merleau-Ponty, je traiterai un peu plus sur la dernière séance, sur le lien entre philosophie et psychanalyse. Et puis, Lyotard, on verra aussi si j'ai le temps de l'aborder. En revanche, suite à diverses discussions avec certains d'entre vous la semaine dernière aussi, soit pendant l'heure, soit ensuite, je me suis dit que je vous parle d'un certain nombre d'auteurs, évidemment on les a lus, on les a pas lus, on sait qui c'est, on sait pas qui c'est. Tout ça, ça m'a laissé penser qu'il fallait que je rentre quand même beaucoup plus dans les textes pour vous les faire, si vous ne les connaissez pas, déjà pour vous faire vivre un peu ces textes de l'intérieur et vous donner envie de les lire, et être plus précis aussi sur le détail du texte, parce que ça me semble important, et en particulier aujourd'hui je veux insister sur le banquet de Platon parce que c'est le texte à partir duquel j'ai élaboré la problématique du bien dire qui structure l'ensemble du cours, et problématique donc sur laquelle je vais rappeler qui était le but du cours, et puis je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi on peut la sortir du banquet. Pourquoi, qu'est-ce qui est relatif au bien dire dans le banquet? Alors, je vous rappelle simplement les quelques grandes lignes de la semaine dernière pour resituer un peu les choses. Le but de ce cours, c'est d'essayer de montrer que la question du désir n'est pas le désir n'est pas un objet de la philosophie, n'est pas quelque chose comme un concept ou quelque chose qu'on pourrait penser comme ça de manière abstraite, mais que c'est à l'origine même de l'attitude philosophique, que c'est quelque chose qui est extrêmement lié à la notion d'étonnement. Et cette notion d'étonnement, j'avais essayé donc de vous montrer qu'elle était liée profondément à la notion de manque, c'est-à-dire qu'on soulignait l'étonnement, c'était le fait de souligner un manque dans tous les discours établis, dans toutes les représentations établies, et que, en cela, le manque était quelque chose d'absolument essentiel au désir, et que, pour l'une de ces raisons, c'était ce qui me distinguait un peu de Deleuze, c'est pour ça que je voulais essayer de retenir un peu de Deleuze l'idée que le désir était quelque chose de productif, mais en même temps, ce n'était pas parce qu'il était productif qu'il était totalement indépendant de la notion de manque. Je vais essayer de montrer pourquoi aujourd'hui. Parce que le manque, le fait que rien dans les discours établis ne permette d'expliquer ce qui nous étonne, c'est justement ce qui va nous pousser à créer quelque chose, à créer de nouvelles représentations, à créer de nouveaux discours en philosophie, et donc à créer une certaine manière de se questionner. Donc ce lien du désir à l'étonnement et au fondement de la philosophie, j'avais essayé de vous dire aussi, en reprenant Deleuze et Foucault, que pourquoi ce serait une voie autre que celle qu'ils avaient suivie, précisément parce que Foucault établissait une généalogie de la notion de désir, pour montrer que le désir était un concept moderne et qui participait en fait de certains enjeux de pouvoir et qui nous manipulait avec le concept de désir. Et chez Deleuze, au contraire, la notion de désir était de mon point de vue, hein, après on pourra en rediscuter, mais extrêmement bien pensée au niveau de l'individu humain, mais pour Deleuze, le désir n'était pas moins quelque chose d'impersonnel, et il y avait toute une ontologie créée à partir de ça, et c'était sur ce point-là qu'il me semblait qu'on pouvait, si ce n'est contredire, du moins en tout cas prendre d'autres perspectives. Et donc, je m'étais attaché à essayer de montrer que le désir était avant tout une question de bien-dire, d'expression, et surtout de style. C'était dans le style qu'on pouvait voir le désir. Alors, tout cela, j'en avais esquissé les contours, mais comme je vous avais dit, je n'ai rien justifié. Et d'où ça vient tout cela? Eh bien, justement, c'est ce que je voulais rappeler, juste une dernière chose aussi avant. J'avais précisé que cette problématique du bien-dire, elle était distincte de ce qui était bien pensé et bien pensant. C'est-à-dire que le désir n'était pas quelque chose qui était de l'ordre du concept, et que par conséquent, il était aussi, et ça on va énormément le voir dans le banquet, il va remettre certains idéaux de la philosophie en question, et en particulier, on va le voir ce soir, l'idéal de vérité. Et puis le désir n'était pas non plus de l'ordre du bien pensant, au sens, là on va le voir aussi dans un des discours du banquet, que le désir est à la frontière du moral et de l'immoral et qu'il ne rentre pas dans les cadres ou les catégories de la moralité. Problématique donc du bien-dire. Pourquoi essayer de construire cette perspective sur le désir à partir du banquet de Platon? Donc comme je vous ai dit, je souhaiterais vraiment essayer de vous faire entrer dans ce texte, le banquet de Platon. Je vous dis juste quelques mots sur ce qu'est un banquet, parce qu'il faut être très clair aussi, durant l'Antiquité. Un banquet, c'est une réunion, alors rien à voir avec une réunion de travail, hein, c'est une réunion entre hommes, déjà, réunion entre hommes où l'on discute, on parle de choses intellectuelles, mais c'est clairement aussi un lieu de jouissance, un banquet. Un lieu de jouissance, de tous les types de jouissance, c'est-à-dire on y mange énormément jusqu'à outrance, on y boit jusqu'à l'ivresse, on s'y adonne à toutes les formes de plaisir sexuel, hétérosexuel, homosexuel, c'est vraiment une très grande liberté, c'est le lieu d'un plaisir des sens. Je vous rappelle, on s'y réunissait entre hommes, mais le banquet était aussi un moment où on conviait, il y avait énormément de prostituées dans un banquet. Alors, Platon a une petite périphrase pour désigner les prostituées dans le banquet, c'est les joueuses de flûte, parce qu'elles étaient musiciennes aussi, mais il faut être clair sur ce que sont les joueuses de flûte, ce sont des prostituées, vraiment. Donc voilà, le banquet, c'est vraiment un lieu où se mêlent les questions intellectuelles et les questions du plaisir, d'une façon extrêmement imbriquée. Et c'est ça, c'est un banquet que Platon va nous raconter. Alors, quelques mots encore un peu généraux sur cette œuvre de Platon, avant de rentrer dans le détail du texte. Le banquet, c'est un texte extrêmement original et singulier dans l'ensemble de l'œuvre de Platon, mais aussi dans l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Alors, dans l'ensemble de l'œuvre de Platon, pourquoi? D'abord parce que c'est un texte où le désir et plus généralement tout ce qui a trait au corps n'est pas dévalorisé par Platon. C'est-à-dire, dans la plupart des textes de Platon, pas tous de manière schématique, mais dans la plupart, le corps chez Platon est quelque chose qui est plutôt dévalorisé parce que le corps, c'est ce qui nous attache à notre singularité, c'est le lieu de notre sensibilité, et c'est le lieu de nos passions, donc c'est ce qui nous empêche, notre sensibilité, nos passions, notre corps, c'est ce qui nous empêche de nous élever à ce qui est universel, à ce qui est partagé par chacun, et à l'intelligence. Le corps, c'est ce qui nous détourne de la vérité, chez Platon. Donc ça va à l'encontre de la démarche philosophique et de l'idéal de vérité chez Platon. Or, dans le banquet, là, c'est l'un des aspects originaux de ce texte, c'est que, on va le voir, la place du corps n'est pas du tout une place dévalorisée, bien au contraire. Original aussi, parce que le type de discours qui est employé est assez différent des autres types de discours qu'on voit dans l'œuvre de Platon. La plupart des œuvres de Platon sont des dialogues. Ici, le banquet, il y a du dialogue, bien sûr, mais il y a aussi de très longs exposés, il y a plusieurs discours, et ça, c'est déjà un indice extrêmement important, parce que le dialogue, si vous voulez, pour Platon, ça fait partie d'une méthode propre à Socrate, qu'on appelle la maïeutique, et le dialogue, c'est ce qui permet de faire émerger la vérité. Or, renoncer à la... Enfin, il n'y renonce pas totalement, encore une fois, mais c'est un peu particulier. Ne pas mettre le dialogue absolument au centre du banquet, c'est déjà, de ce point de vue-là, adopter un autre mode de discours que dans la plupart des autres œuvres. Un discours qui, je vous le rappelle, et ça c'est très important, est censé fonder la possibilité d'accès à la vérité dans les autres œuvres de Platon. Or là, il n'utilise pas ce discours. Donc là aussi, il y a un indice qui déjà me semble important. Original enfin, parce que vous allez le voir, enfin, il me semble, la figure de Socrate, qui est la plupart du temps la figure valorisée dans les textes de Platon, prend ici un aspect assez différent que dans les autres textes. Socrate, il a quelque chose, par moment, d'un peu ridicule dans ce texte. Il comprend pas ce qu'on lui demande, il est perdu. Vous allez voir qu'il y a des choses, j'en parlerai, mais il a beaucoup de réticence. Et c'est pas une figure qui est aussi valorisée que d'habitude. Et ça aussi, c'est un indice, à mon avis, important. Original dans l'histoire de la philosophie, parce que le banquet est un texte extrêmement difficile dont il est extrêmement difficile de saisir la portée. Les discours sur les recherches et les commentaires universitaires sur le banquet sont extrêmement nombreux, et on assiste souvent à des il y a beaucoup de recherches historiques, notamment. Alors, sur la question de traduction, sur des questions de traduction du texte grec, de l'existence des personnages. Mais sur le sens du texte, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des discours dont on ne sait pas très bien quoi faire. Par exemple, l'un des discours du banquet qui est tenu par Aristophane, et qui est à mon avis un des personnages paradoxalement les plus importants du banquet, il est signe de beaucoup de choses, Aristophane, et ben c'est le discours le plus rocambolesque qui est tenu dans le banquet sur le désir. Et ça donne des choses très étranges, y compris dans mon expérience de prof, parce que parfois, le banquet est souvent donné par les profs de terminale, et parfois je me retrouve à faire passer les oraux du bac à des élèves qui doivent étudier et faire un commentaire sur le banquet de Platon, et qui doivent étudier de manière systématique et argumentative le discours d'Aristophane. Et c'est, je me dis, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont aller trouver d'argumentatif dans le discours d'Aristophane, quelqu'un qui raconte que, en fait, à l'origine, on était des androgynes et que le désir, ça consiste à retrouver son complément. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'argumentatif là-dedans? Donc voilà, là, il y a un certain nombre de choses qui sont assez étranges dans ce texte, et des indices déjà qui nous montrent que, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres, que dans ce texte, la question de la vérité et de l'idéal de la vérité ou du désir de vérité ne tient pas du tout la même place qu'ailleurs. Et il y a plusieurs choses qui montrent ça. Alors on va entrer dans ce texte, et puis je vous en lirai aussi un certain nombre de passages qui me semblent assez, assez savoureux, pour vous faire entendre pourquoi vraiment l'originalité de ce texte. Pourquoi l'originalité? Parce que La plupart du temps, quand on parle du banquet, on dit, bon ben voilà, Platon, c'est le théoricien du désir comme Eros, c'est la traduction de ce qui est traduit par amour ou bien par désir dans le banquet, Eros. On dit, voilà, Platon, c'est celui qui a théorisé le désir comme manque. Et c'est généralement à ça qu'on réduit la théorie du banquet. Or, il y a énormément d'autres choses dans le banquet. Et justement, la question du bien-dire, l'expression, à mon avis, tient une place fondamentale. Alors, je ne m'éparpille pas, mais ce que je voudrais vous montrer avec l'étude de ce texte, c'est que le désir est vraiment à l'origine du discours philosophique, l'origine, mais qu'il entre dans le discours philosophique, c'est une expression que j'avais déjà un peu employée la semaine dernière, en jouant le trouble-fait. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui déstabilise le discours philosophique. Par quoi commence le banquet ? Alors je vous invite d'emblée, si vous lisez ce texte, à accorder aussi énormément d'attention à tout ce qui est dit entre les discours. Non pas seulement les exposés, vous savez qu'il y a plusieurs exposés, Pausanias, Eryximaque, Socrate, etc., j'y reviendrai, mais à chaque fois il y a des petits passages de dialogue entre chaque exposé qui sont extrêmement lourds de sens, à plusieurs reprises. Et dès le début du texte, c'est un dialogue où on va nous expliquer ce qui amène un certain Apollodore à nous parler du banquet. Et qu'est-ce qui se passe au début de ce texte ? Apollodore s'adresse au lecteur et nous dit « Voilà, j'ai été interpellé un jour par quelqu'un qui voulait que je lui raconte un banquet auquel Socrate avait assisté. » Et au fur et à mesure du dialogue, on apprend plusieurs choses. D'abord, on apprend que c'est Apollodore donc qui va nous raconter le banquet, tout le long. C'est tout ce qui est dit dans le banquet, il faut le prêter à la bouche d'Apollodore. Qu'est-ce qui est dit sur ce Apollodore ? Il va raconter un banquet auquel il n'était pas présent. Il va raconter un banquet qui s'est déroulé il y a très longtemps. Très longtemps. Il n'était pas présent. Ça s'est déroulé il y a très longtemps. En plus, il avoue lui-même qu'il y a plusieurs choses qu'il a oubliées. Et puis, il y a de multiples remarques comme ça dans le texte qui rappellent qu'il y a des choses qui ont été oubliées dans ce banquet. Et puis, il y a autre chose qui est extrêmement intéressant. Apollodore, au début du banquet, alors ça, j'ai vérifié parce que donc j'ai emprunté l'édition de référence sur le banquet, parce que je ne suis pas helléniste, je n'ai pas de connaissance du grec. Mais donc je suis allé chercher dans le livre qui est a priori le plus fidèle pour les traductions, l'édition des belles lettres, Budé. Apollodore, il a un surnom. Il a un surnom qui nous est révélé comme ça à la fin du dialogue qui ouvre. Son surnom, c'est le fou furieux. C'est l'homme qui délire. Donc voilà, Platon aborde un texte sur le désir. Un texte où il est philosophe, Platon. Il est censé nous apporter un texte qui, a priori, doit avoir une certaine pertinence sur ce qu'est le désir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le banquet nous a raconté par quelqu'un qui n'était pas présent d'un événement qui s'est déroulé il y a extrêmement longtemps par la bouche de, il le raconte à travers la bouche de quelqu'un d'autre et celui qui nous raconte l'histoire est un délirant. Comment on peut interpréter ça ? Alors, les suggestions possibles. Si jamais le discours qui nous est proposé a une pertinence, eh bien, ce qu'on va savoir d'emblée, c'est que cette pertinence, elle n'est certainement pas mesurable par la correspondance du discours avec les faits. Et la correspondance d'un discours avec les faits ou avec la réalité, c'est la vérité. C'est la définition même de la vérité. Autrement dit, ce qui est dit au début de ce livre, c'est « on va vous parler du désir », Mais ne vous attendez pas à entendre quelque chose de vrai sur le désir. Allons un tout petit peu plus loin. Si ce discours a une pertinence sur le désir, ça ne tiendra certainement pas à sa vérité. Autrement dit, il est tout à fait possible, je continue simplement de développer l'interprétation, il est tout à fait possible de très bien parler du désir tout en le travestissant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, parce que ici, l'idéal de vérité, alors peut-être qu'on le retrouvera à certains moments, parce que la question de la beauté et de la vérité, chez Platon, c'est lié, mais quand même, là, dès le début du texte, il nous apporte un texte qui est profondément délirant. Il l'assume. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on en tienne compte dans les discours qui vont être tenus par la suite. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir y chercher une argumentation systématique, qu'il ne va pas falloir y chercher une vérité absolue. Il va falloir interpréter. Ça sera bourré d'images, de mythes. Il va falloir essayer de trouver le sens, peut-être le style des discours. On y reviendra. Je continue un peu dans le texte. Première chose qu'on apprend de Socrate. Donc Socrate va... Apollodore raconte l'histoire du banquet et raconte comment Socrate arrive à ce banquet. Qu'est-ce qu'on apprend en premier de Socrate? Je vous lis le texte. Je rencontrais Socrate, me dit-il, qui sortait du bain et avait mis des sandales, ce qui n'était guère dans ses habitudes. Je lui demandais où il allait pour s'être fait si beau. Il me répondit, « Je vais dîner chez Agathon, l'organisateur du banquet. Hier, à la fête en l'honneur de sa victoire, je lui ai faussé compagnie car je craignais la foule. Mais j'ai accepté de me rendre chez lui aujourd'hui et c'est la raison de cette belle toilette. Je veux être beau pour aller chez un beau garçon. » Bref, soyons clairs. Est-ce que Socrate a vraiment l'intention d'aller découvrir de la vérité? Soyons clairs, ce qui plaît à Socrate, alors chez lui c'est très lié, on va y revenir, la question de l'érotisme, du désir et de la vérité. Mais soyons clairs, ce qu'il veut en allant là-bas, c'est Agathon. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ça va revenir sans arrêt dans le banquet. Dans les petits dialogues intermédiaires, si vous regardez, Socrate n'arrête pas de chercher à éviter de parler du désir pour revenir vers Agathon et aller parler avec lui sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet. Pourquoi? Parce que Socrate, son intérêt, c'est d'aller pratiquer sa maïeutique sur Agathon. Il sait que sa maïeutique, c'est ce qui le rend séduisant, Socrate, et il sait que c'est comme ça qu'il plaît aux gens et qu'il les séduit et qu'il a des relations sexuelles avec eux. Donc, il ne faut pas oublier dans quelle intention Socrate va à ce banquet. Donc, on y arrive à ce banquet et on se retrouve avec plusieurs convives qui décident que, et ça c'est la particularité du discours, ils se retrouvent et puis ils se disent, bah non, aujourd'hui, le plaisir des sens, on a eu notre dose. C'est un peu ça qu'ils se disent. Pourquoi? Oui, on est déjà hier, on a déjà énormément bu, c'est clairement ça, hein, c'est le début du banquet, hein, je trahis absolument rien. On a énormément bu, remettre ça ce soir, ça fait quand même vraiment beaucoup. Il va falloir qu'on sorte de l'ivresse à un moment. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Quelle est la mesure qu'ils prennent? Ils décident de ne pas boire et, je vous assure, c'est dans le texte, de renvoyer les joueuses de flûte. Autrement dit, ce soir, ce n'est pas le moment du plaisir des sens. Ce soir, c'est on va parler. Et on va parler de quoi? Du désir. Et pour parler du désir, qu'est-ce que ça suppose? Eh bien, ça suppose de renoncer à la jouissance immédiate et au plaisir immédiat. Pas d'ivresse, pas de plaisir sexuel immédiat. Et par quoi ça commence? Quelqu'un qui propose de parler du désir, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, c'est quand même vraiment bizarre. Comment ça se fait qu'il n'existe absolument aucun discours sur le Dieu Eros. C'est quand même vraiment étrange qu'il n'existe aucun discours sur le dieu Eros. C'est pourtant un dieu magnifique. Pourquoi personne n'en a jamais parlé? Si ça, c'est pas de l'étonnement, qu'est-ce que c'est? Quelque chose manque fondamentalement dans le discours. Il n'y a pas de discours sur le dieu Eros. Qu'est-ce qu'on va faire, donc? Eh ben, on se propose ça. Le but, ça va être de faire l'éloge, je dis bien faire l'éloge, ce sont les mots du texte, du dieu Eros, faire l'éloge du désir. Faire l'éloge, en parler le mieux possible. Alors là, Socrate, il a d'emblée, franchement, une attitude risible. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, bon, on va parler du désir, d'accord? Moi, ça me plaît pas trop parce que vu comment on est placé à table, je vais parler en dernier. Et ça me plaît pas parce que il va y avoir énormément de gens talentueux qui vont parler avant moi. Et moi, je parle en dernier. Ça veut dire que si le désir, c'est un concept, si le désir, il s'agit d'en dire la vérité, ben, toute la vérité aura été dite avant que je parle. Socrate, il est d'emblée là-dedans. Il comprend une chose, bien parler, pour lui, ça veut dire une chose. Dire la vérité de la chose en question. Dire la vérité sur le désir. Et il est très inquiet, il est complètement embarrassé par ça. Parce qu'il va parler le dernier, et qu'il ne sait pas ce qu'il va pouvoir dire après autant de personnes talentueuses. Autrement dit, dans quelle perspective est Socrate ? Socrate, il est dans la perspective, si je fais le lien un peu avec le cours précédent, que j'appellerais la perspective conceptuelle. Un concept, c'est quoi? C'est quelque chose qui définit de manière précise une réalité. Alors, c'est quelque chose qu'on peut travailler, mais une fois qu'un concept a été fondé, c'est un outil. Il n'y a plus rien à en dire. Il sert à quelque chose. Le concept, ça cerne les choses. Là, je me sers que de l'étymologie du terme. Hein. Cum captio, captio, c'est prendre, c'est enserrer. Concept, ça vient de là. Le mot concept. Un concept, c'est quelque chose qui ferme les choses. Socrate, pour Socrate, au départ, le désir, c'est un concept. Et à partir du moment où on a tout dit du concept, il n'y a plus rien à en dire. Il est dans cette perspective-là. Et donc, il s'inquiète. Autrement dit, les seuls autres qui comprennent ce qui est important dans le désir, ce sont les autres. Ceux qui comprennent que le problème, ça va être de bien en parler. Bien en parler. Alors, le premier discours, c'est Phèdre qui commence. Donc il y a plusieurs convives, ils vont parler chacun à leur tour, à leur manière, du désir. Je vous lis un tout petit morceau du discours de Phèdre pour vous mettre dans l'ambiance. Vous allez voir qu'on est loin du discours argumentatif, raisonné, etc., etc. À propos donc du dieu Eros, Phèdre dit « Il compte parmi les plus anciens dieux, ce qui, ajoutait-il, est un honneur. De cette ancienneté, nous avons une preuve. L'amour n'a ni... L'amour, c'est la traduction du désir. Eros, ça traduit Eros. L'amour n'a ni père ni mère, et personne, ni prosateur ni poète, ne lui en donne. Hésiode nous dit que d'abord il y eut le chaos. Et puis la terre, alors là il cite Hésiode, et puis la terre au large sein, sûre, assise à jamais, offerte à tout vivant, et l'amour, donc l'amour vient après le chaos. Et d'accord avec Hésiode, Akusilaos dit lui aussi qu'après le chaos sont nés ces deux êtres, la terre et l'amour. Quant à Parménide, en parlant de la génération, il dit « De tous les dieux, l'amour fut le premier qu'enfanta sa prudence. » Ainsi, de plusieurs côtés, on s'accorde à dire que l'amour est un des dieux les plus anciens. Alors, pourquoi je vous cite ce petit passage? Voyez d'emblée les références. On n'est pas dans le discours argumenté, on est dans le mythe et la poésie. Hésiode, la référence. Donc, il est clair que ce qu'on va apprendre du désir, ici, il va falloir non pas chercher l'argumentation systématique, mais l'interprétation métaphorique. Parce que le problème, c'est pas la vérité. Le problème, c'est le sens. Donc, quel est le sens? Alors, je ne vais pas avoir le temps, malheureusement, de détailler tous les discours, parce que je voudrais aussi passer du temps sur le discours de Socrate, mais le désir n'a ni père ni mère, dit ici le mythe. Il est sans origine. Autrement dit, le désir, ce n'est pas quelque chose qui s'explique par une cause au sens, alors pas au sens où on peut l'entendre parfois dans la psychanalyse, hein, mais par une forme de déterminisme. Le désir, c'est là et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de parenté au désir. Il est à lui-même sa propre cause et il est donc, s'il n'est pas, explicable par une forme de déterminisme, ça veut dire que quelque part il est contingent. Pourquoi j'insiste sur ce point? Alors là, je vous laisserai aussi lire le discours de Phèdre aussi. Ça, c'est le premier point qui me semble important. Il y a un autre point, j'y viens ensuite. Parce que l'étonnement n'est pas quelque chose qui est entièrement déterminé par le contexte dans lequel il apparaît. Tout individu, je répondais à une des questions la semaine dernière en disant je veux, c'était un peu arbitraire, mais maintenir la possibilité de l'étonnement pour tout individu, quelle que soit sa condition. Quelle que soit sa condition. C'est un peu... Pourtant, je dis pas du tout que le déterminisme social n'existe pas, hein, loin de là. Mais il y a quelque chose du désir qui est absolument contingent et qui est absolument singulier. Et c'est... Encore une fois, l'un des aspects sur lequel je voulais insister, parce que ça ne veut pas dire que le désir est quelque chose que le sujet maîtrise, ni quelque chose qu'on peut associer comme ça à un individu qui serait maître de ce désir et qui peut le contrôler, etc. Mais oui, c'est quelque chose qui nous traverse. Mais le désir est singulier à quelqu'un et il n'est pas explicable par tout ce qui l'entoure. Vous pouvez bien chercher à expliquer par des déterminismes psychologiques, psychanalytiques, sociaux, politiques, tout ce que vous voulez, la singularité d'un désir, parfois, reste inexplicable. Et cet inexplicable est, à mon avis, très important dans la question du désir. L'autre point du discours de Phèdre, c'est la capacité de dépassement de la personnalité que le désir peut engendrer chez quelqu'un. Il cite notamment des cas de courage, de sacrifice, des héros féminins et masculins. Parce que c'est important d'ailleurs aussi qu'il y ait un héros féminin qui est une femme comme héroïne du désir. C'est assez rare dans la philosophie antique de souligner le rôle représentatif d'une femme dans des questions philosophiques. Donc ça, il faut le souligner aussi. Cette femme qui s'appelle j'ai perdu son nom, je sais plus, mais elle est quand même comparée à Achille. Vous voyez ce que représente Achille dans la mythologie grecque. Platon met sur le même plan, enfin le discours de Phèdre met sur le même plan le courage d'une femme, met sur le même plan qu'Achille, d'accord. Et le désir est donc quelque chose qui permet un dépassement de la personnalité et un courage extrêmement grand. Donc là encore, ça nous dit deux choses. Ça nous dit, on ne peut pas réduire le désir à la personnalité du sujet, et en même temps, c'est quelque chose qui lui est absolument singulier. C'est quelque chose qui est original par rapport à ce qu'on connaît de l'individu, qui n'est pas forcément représentatif de lui, on se dépasse dans le désir, mais qui en même temps est aussi quelque chose qui lui est absolument singulier. Cette femme a été admirée des dieux dans le discours de Phèdre. Donc les dieux eux-mêmes ont été subjugués et parfait la paix. Bref. Ah oui, j'ai oublié une chose aussi très importante. Le désir est ce qui intervient, je reviens sur le sans cause, ce qui n'a pas de cause. Le désir, dit Platon, enfin dit le discours de Phèdre, c'est ce qui intervient, c'est la première chose qui est créée, enfin qui apparaît, après le chaos. Après le chaos. C'est la première chose qui donne une forme, même si le mot n'est pas très bien choisi, mais d'ordre, d'ordonnancement. Ou même tout simplement qui donne une forme aux choses. Et ça, c'est très important parce que le désir est contingent, mais c'est la première chose qui fait sens. On n'est plus dans le chaos, on n'est plus dans... pas l'irrationnel parce que tout n'est pas question de logique, mais il y a quelque chose qui prend forme avec le désir et qui est sans cause. D'accord ? Donc on est vraiment à un moment originel. Pour le discours de Phèdre. Le discours de Pausanias. Alors, il va falloir que je passe un peu, parce que sinon je vais vraiment déborder. Donc du coup, je vais le résumer un petit peu. Mais le discours de Pausanias aborde la relation entre le désir et la morale. C'est vraiment le Kant du banquet, Pausanias. Pour lui, aucune action n'est belle en soi, aucun désir n'est beau en soi, pour Pausanias. Tout dépend de la règle que va suivre le désir pour se formuler, s'exprimer ou agir, et tout va dépendre de cela. Et pourquoi le discours de Pausanias est-il vraiment intéressant? Parce qu'en fait, avant la fin du discours, qui est très radical, très tranché, l'ensemble du discours est en fait assez paradoxal. Pourquoi? Parce qu'il dit à la fois... Le désir, c'est ce qui va permettre... D'un côté, il dit, il est très important que, dans l'éducation, le désir soit réfréné et que on ne cède pas à toute tentative de séduction. Il faut se contrôler par rapport à la demande de l'amant, dit le texte. Et il faut savoir réfréner son désir de ce point de vue-là. Donc le désir doit être conforme à la morale. Mais d'un autre côté, il dit aussi que quand il est question du désir, tout ce qui serait condamné à certains domaines de la vie, par exemple, alors il prend l'ascension sociale, le fait de vouloir devenir riche, toutes les démarches qui sont faites par un amant, pour aller conquérir, pas par quelqu'un qui aime, pour aller conquérir son aimé, sont des démarches extrêmement intéressées, parfois perverses, parfois complètement outrancières. Et si on transposait ce type de démarche dans l'ascension au pouvoir, dans la recherche de richesse, etc., toutes ces démarches-là seraient perçues comme profondément immorales. Alors que quand c'est dans le cas de la conquête de quelqu'un d'aimé, non seulement on les tolère, mais même on les admire. Donc, le désir, c'est quelque chose qui, apparemment, est capable de subvertir l'ordre moral. D'un côté, il est nécessaire de le réfréner, de l'autre, on tolère très facilement ce qui est fait au nom du désir. Et donc là, on a un aspect très, très ambigu sur cette nature du désir. Avec une phrase que je voudrais simplement retenir, je vous avais dit que je parlerai du texte beaucoup, et il y a une phrase qui me semble très importante dans le discours de Pausanias, c'est « Devant Aphrodite, la déesse de la beauté, devant Aphrodite, nul serment n'engage. » Autrement dit, quand il est question de beauté, quand il est question de style, de bien dire, peu importe la promesse, peu importe la vérité, peu importe le devoir. Les questions morales, quand on est dans l'ordre du désir, le désir n'est pas immoral, mais on est dans un autre domaine. dans un autre domaine. Alors la fin du discours de Pausanias est beaucoup plus convenue. Il revient à quelque chose de très moral, où grosso modo il nous dit, de toute façon ce qui fera que le désir est quelque chose de bien, c'est l'intention avec laquelle on va aller vers quelqu'un. Il faut aimer son âme et pas son corps, parce que si on aime son âme, on sera fidèle. Si on aime son corps, on sera infidèle, ça sera irrégulier. On revient à des choses beaucoup plus attendues, je dirais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Juste après le discours de Phèdre, normalement, c'est à Aristophane de parler. Et là, on apprend que Aristophane, il veut pas parler tout de suite, parce qu'il a le hoquet, et c'est pas la boisson, on a enlevé l'ivresse. Mais on peut supposer que quelque part il était mort de rire. On peut supposer. Et pourquoi il était mort de rire? Parce que toute cette histoire que le désir, ça crée une harmonie, ça crée quelque chose d'intéressant, lui, il va tourner ça en ridicule d'une manière magistrale. Mais donc, en tout cas, il ne peut pas parler tout de suite. Et donc, il cède sa place, j'y reviendrai à Aristophane, à Eryximaque. Eryximaque, c'est le médecin. Donc, lui, il va avoir une approche physiologique du désir. Comment fonctionne le désir dans notre corps? Comment ça fonctionne, au sens propre du terme? Alors là aussi, je vais passer de... Pardonnez-moi un peu rapidement, parce que je voudrais revenir aux discours qui sont plus ambigus. Mais, grosso modo, Eryximaque dit, voilà, le désir, c'est ce qui... doit être bien maîtrisé, il faut un peu de tout dans notre corps pour que ça marche bien, qu'on soit en bonne santé, etc. Et finalement, le désir, c'est ce qui va dépendre de l'harmonie des choses. Donc, il termine son discours, et là, nouvelle intervention d'Aristophane. Et que fait Aristophane? Il vient de perdre son hoquet. Et il lui dit, merci beaucoup, Eryximaque, de m'avoir conseillé d'éternuer pour perdre mon hoquet, ça m'a permis de réharmoniser mon corps, comme tu le disais dans ton discours là juste maintenant. Autrement dit, disons les choses clairement, il se fout de lui. Il se moque de lui. Ton discours sur il faut que ça soit harmonieux dans le corps, etc., ça peut se réduire à un éternuement. Voilà ce que je dis de ton discours. Et alors ça, c'est de l'interprétation, mais il y a quelque chose qui n'est plus de l'interprétation. Quand c'est à Aristophane de parler, que dit-il? Il dit, ça serait facile de vous faire rire avec le désir. Je ne vais pas vous faire rire, Aristophane c'est un auteur de comédie. Ça serait facile de vous faire rire, c'est ce que je fais tous les jours. Je ne vais pas vous faire rire, je vais vous dire, ça c'est dans le texte, je vais vous dire des choses ridicules. C'est comme ça qu'il démarre son discours sur... la manière dont il conçoit le désir. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que le désir, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'homme désire? Et bien parce qu'en fait, à l'origine, on était, selon lui, donc, des personnes androgynes, on avait les deux sexes, mais on avait aussi, notre corps était d'une certaine manière doublé, puisqu'on avait quatre jambes, on avait quatre bras, et on avait une manière de se déplacer qui était particulièrement intéressante, parce qu'on se déplaçait en faisant la roue, comme ça, c'était... Voilà, toutes les images d'Aristophane, c'est ça, et puis un jour, on a été vraiment en passage, et les dieux nous ont coupés en deux. Et c'est pour ça que depuis, les hommes recherchent leur complément dans l'autre sexe. Alors, pas seulement l'autre sexe d'ailleurs, parce que il y avait aussi personnes qui étaient accouplées mâle-mâle, femelle-femelle. Et voilà, on a été coupés en deux. Et donc, voilà ce que dit Aristophane sur le désir. Vous m'excusez, mais quand même, est-ce qu'on peut chercher une pertinence argumentative ou systématique dans ce type de discours? Aristophane lui-même annonce, je vais vous dire des choses ridicules. Il faut l'écouter. Oui, il nous raconte des choses ridicules. Alors quel est le sens de son discours? Vous êtes là à tous croire que La vérité du désir, c'est qu'on recherche son complément. La partie qui irait exactement avec nous-mêmes. À faire l'unité absolue. À retrouver cette unité qui nous manque tant. Et que la vérité du désir, en somme, là on tombe sur des questions plus philosophiques et qui traversent le banquet, vous persistez dans la croyance que la vérité du désir, elle est dans l'objet du désir, qui constitue votre complément. Mais c'est un leurre, c'est n'importe quoi. C'est ça qu'il dit Aristophane. Pourquoi il nous dit des choses ridicules? Arrêtez de croire que la vérité du désir, elle est dans l'objet du désir et dans le fait que le désir va vous apporter l'unité, que vous allez trouver votre complément. C'est le mythe du prince charmant ou de la princesse charmante si vous préférez, mais il le tourne en ridicule. Et la fin du banquet ne dira rien d'autre. Socrate s'est toujours trompé, j'y reviendrai, en croyant que la vérité du désir était dans l'objet du désir. Et c'est pas le problème. Et c'est ça qu'Aristophane tourne en ridicule. Alors, après, vient... Je suis obligé de passer un peu vite, mais il faut quand même que je vous raconte un petit peu, parce que je vous ai dit que c'était important, et ce qu'il y a entre les discours. Après, c'est le tour d'Agathon. Agathon, c'est le personnage qui est le plus attendu, parce qu'il organise ce banquet suite à une... Il a été récompensé pour une tragédie qu'il a écrite, on s'attend au grand écrivain, au personnage extrêmement talentueux, qui va nous dire vraiment quelque chose d'extraordinaire sur le désir. Entre-temps, Socrate n'a pas arrêté d'essayer de se défiler. On lui demande de parler du désir. Je vais vous donner une référence, vous parler de texte, juste pour vous citer un passage. À chaque fois que je veux citer des passages, je ne le retrouve pas sur mes feuilles. Déjà la semaine dernière, il y a quelque chose là. En tout cas, désolé, vous irez voir dans le texte. À plusieurs reprises, Socrate reparle à Agathon et se distancie de la question du désir. Et même au moment où c'est à Agathon de parler, on écoute, enfin on lit le discours d'Agathon, et franchement, on compare le discours d'Agathon aux autres discours, de loin, c'est le plus nul. Il dit rien, il dit des banalités. Comparé aux autres discours, Agathon dit des choses extrêmement banales. Et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est Socrate. Socrate, une fois qu'Agathon a parlé, il est élogieux avec Agathon, il lui dit c'était magnifique, etc. Et puis en même temps, juste après, il va lui démontrer qu'il a dit n'importe quoi. Et parce que, pourquoi ? Parce que Socrate, il ne faut pas perdre de vue ce qu'il veut. Il veut parler avec Agathon, mais il veut parler avec Agathon parce qu'il veut se le taper. Enfin, voilà, soyons clairs. Et ça n'intéresse pas du tout Socrate de parler de son désir, et il veut le vivre, son désir. Et en parler, c'est quelque chose qui le déstabilise complètement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est vraiment, à mon avis, passionnant. On est dans le domaine de l'interprétation, mais là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Je peux prendre un petit quart d'heure? C'est faisable? Ça vous dérange pas? Pour parler un peu du discours de Diotime. D'abord, Socrate essaye de se défiler, puis au bout d'un moment, il comprend bien qu'il ne pourra pas y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, d'un seul coup, il va dire, bon bah, d'accord, je vais parler du désir, mais je vais vous en parler à travers le discours d'une femme. Alors, là, il y a des choses assez intéressantes. Vous savez que je vous ai dit que le banquet a été extrêmement commenté par les universitaires. Il y a un très grand nombre de recherches, notamment sur l'ensemble de l'œuvre de Platon, sur les personnages. Qui sont ces personnages? Or, si on s'intéresse au cas de Diotime, c'est assez intéressant, justement. Oui, de fait. Si on s'y intéresse, on constate que dans les recherches universitaires qui ont été faites, personne ne sait si Diotime est un personnage réel ou non. Cette prêtresse dont parle Socrate, on ne sait pas si elle a existé. Alors que les autres personnages, Gorgias, Calliclès, enfin des gens qu'on voit apparaître dans les discours de Platon, on sait leur existence. Diotime, on ne sait pas. Ça, c'est déjà un point qui, à mon avis, est très intéressant. On verra pourquoi. Ensuite, que fait Socrate? Il dit, voilà, je vais vous parler du désir à travers le discours que m'a tenu une femme. Qui était cette femme? Cette femme, c'était une prêtresse. Une prêtresse qui s'y connaît vraiment, vraiment beaucoup dans les choses de l'amour. Et c'est elle qui m'a initié aux choses de l'amour. Quand on sait ce que signifie l'initiation philosophique chez Socrate, quand on parle d'une femme qui s'y connaît quand même vraiment beaucoup dans l'amour, d'ailleurs dans le texte de l'édition Budet, dans la traduction, le traducteur met des points de suspension après avoir raconté que cette femme s'y connaît beaucoup dans les choses de l'amour et que c'est elle qui a initié Socrate. Bon, soyons clairs, elle l'a initié sexuellement. Et alors, en tout cas, on peut supposer ça. Mais il y a d'autres choses. On s'aperçoit aussi que cette femme, comment elle raisonne? Elle raisonne exactement à la manière dont Socrate raisonne. Elle tient avec Socrate le discours qu'à d'habitude Socrate tient avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme qui parle d'une femme qui s'y connaît extrêmement bien dans les choses de l'amour, qu'elle l'a initiée sexuellement, que, en plus, cette femme, c'est vraiment la femme idéale, c'est, elle parle exactement comme j'aimerais qu'elle parle. C'est ça. Exactement. Elle correspond exactement à mes attentes. Mais si là, on n'est pas dans l'ordre du fantasme, je ne sais pas où on est. On peut tout à fait supposer que Diotime est clairement une espèce de fantasme de Socrate. Pourquoi? Et c'est là que ça devient intéressant sur la question du désir. Parce que Socrate rechigne. Il dit, voilà, j'en ai marre, on veut me faire parler du désir, moi c'est Agathon que je désire et je ne peux pas avoir de relation sexuelle avec lui. Donc je vais bien être obligé de le sublimer, ce désir. Et je vais bien être obligé de passer par un autre chemin pour en parler ou pour le vivre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, le désir, qu'est-ce qu'il supporte? C'est le fantasme. C'est l'imaginaire qui supporte le désir. Interprétation, j'en conviens, mais il y a quand même des... Elle parle exactement comme Socrate. Exactement comme Socrate. Bon, ça c'est une interprétation, vous en faites ce que vous voulez. Après il y a le contenu du texte, j'y viens. Qu'est-ce qu'on apprend sur le désir dans le discours de Diotime? Et là aussi, je vous disais, il ne faut pas chercher la rigueur logique et systématique. Les seuls moments qui paraissent un peu argumentés ou logiques sont des moments non rigoureux. Exemple très simple, vous prenez le discours de Diotime, on passe la place que tient la beauté dans le discours de Diotime. Au départ, au début du texte, d'un point de vue logique, hein, là je parle uniquement, la beauté c'est l'objet du désir parce que le désir en manque. Donc c'est ce que le désir cherche. On avance un peu dans le discours, la beauté devient quoi? Non plus l'objet du désir, mais le désir c'est enfanté dans la beauté. Et l'objet du désir devient l'immortalité. Donc la beauté, elle change de statut, si on est dans la recherche conceptuelle, et c'est absolument pas rigoureux la manière dont la beauté est définie et employée dans le discours de Diotime. Donc le problème n'est pas là, c'est clair. Il faut chercher ailleurs, il faut chercher autrement. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur le désir? Déjà que Socrate, il se trompe complètement dans sa recherche sur le désir. Pourquoi il se trompe complètement? Parce que Socrate, dans son raisonnement habituel, ultra logique, il dit, voilà, le désir, on recherche la beauté dans le désir, donc si le désir recherche la beauté, c'est que lui-même n'est pas beau, donc c'est qu'il est laid. Diotime lui dit, mais écoute, Socrate, c'est pas parce que on manque de quelque chose qu'on est nécessairement le contraire de quelque chose. Manquer de beauté ne veut pas dire qu'on est laid. On est dans l'entre-deux avec la question du désir. Et là où tu te trompes complètement, c'est dans le fait que tu crois que la vérité du désir, elle est dans l'objet recherché. Et là, Dieu nous dit pas du tout. La vérité du désir, elle est dans celui qui aime, celui qui est amoureux. Alors, je passe là-dessus, il y a beaucoup d'images sur le désir aussi qui appellent énormément de choses. Le désir est le fils de deux dieux dont un représente la pauvreté, le manque, et l'autre représente la richesse et l'abondance. Et à partir de cette image, Diotime explique pourquoi le désir est fluctuant, pourquoi parfois il est toujours en recherche de quelque chose, mais même s'il semble l'avoir déjà, etc., etc. Là, il y a beaucoup de choses à interpréter à partir de ces images-là. Je m'attarde pas dessus, mais on est pris un peu par le temps, mais voilà. Mais j'essaye de rester sur les points qui me semblent très importants. L'autre chose qu'on apprend, donc, c'est la vérité du désir n'est pas dans son objet. N'est pas dans, si on reprend Aristophane, dans le complément. Alors elle est où? Ben, Diotime dit, qu'est-ce que cherche quelqu'un dans le désir? Et là, elle a un discours qui va relier le désir sexuel et le désir de créativité. Diotime dit, il y a des gens qui sont féconds selon le corps et d'autres qui sont féconds selon l'âme. Les gens qui sont féconds selon le corps, ben, qu'est-ce qu'ils désirent? Ils désirent enfanter dans la beauté. Autrement dit, la beauté n'est pas ce qui est recherché par le désir. La beauté, c'est le stimulant, si vous voulez, qui va nous permettre de créer. De créer, et le discours, là aussi, c'est dommage, j'ai pas le temps de le lire, mais si vous regardez le moment où Diotime décrit le désir de l'enfantement et de la procréation dans la procréation concrète, hein, je veux dire la reproduction. Là aussi, c'est très métaphorique. Il y a l'être gonflé de sève qui va perdre sa sève d'un seul coup. Enfin, les métaphores sont clairement sexuelles. Donc, on parle vraiment du désir sexuel ici. Et la beauté, il s'agit d'enfanter dans la beauté. Et puis, il y a ceux qui sont féconds selon l'âme. Et là, Diotime ne va pas du tout dire « ça n'a rien à voir avec le désir sexuel ». Elle va dire « c'est le même désir ». La création de quoi? Ceux qui sont féconds selon l'âme, dit Diotime, doivent enfanter de beaux discours. Enfanter de beaux discours. Et la beauté est un stimulant pour eux. Et il ne s'agit pas de dire que la sexualité n'a rien à voir là-dedans. Les corps, ça c'est ce que Diotime explique, les corps, l'amour des corps est un stimulant pour la création au sens poétique du terme. Et l'objet du désir, le problème du désir, c'est pas d'aller chercher le beau, c'est pas forcément d'être dans le manque de quelque chose en particulier. Le manque n'est là que parce que notre désir le plus profond, l'envers du manque, si vous voulez, son reflet immédiat, c'est le désir de création, d'enfanter de beaux discours. Exactement ce que sont en train de faire les différentes personnes du banquet. Enfanter de beaux discours, autrement dit, créer quelque chose sur le désir qui le dise bien. D'accord? Et donc, avec cette approche-là, on voit bien que le problème du désir, c'est pas son objet c'est un prétexte, c'est un stimulant, c'est quelque chose. C'est le désir de créativité, et même Platon, on va plus loin, d'immortalité. On veut créer quelque chose qui nous propage dans le temps. Bien, j'arrête là-dessus sur le discours de Diotime, et juste je vais conclure avec la fin du banquet parce que c'est pas un détail non plus la fin, elle est vraiment intéressante. Que nous apprend la fin? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont en train de faire leur discours, Et puis, il y a quelqu'un qui vient taper à la porte en faisant beaucoup de bruit, et ce quelqu'un, c'est Alcibiade. Alcibiade, c'est l'amant connu de Socrate, l'homme extrêmement réputé pour sa beauté. Et Alcibiade ne revient pas tout seul. Il revient, alors, ivre, et il revient pas tout seul, il revient, comme par hasard, soutenu par une joueuse de flûte. Autrement dit, qu'est-ce qui fait retour ici? Ben, allez, on arrête le désir, on revient au plaisir. Alcibiade dit, voilà, maintenant, on va être dans l'ordre de la jouissance. Et puis, Alcibiade vient avec, là aussi, alors il le sait pas, hein, mais il va découvrir que Socrate est là, ça le bouleverse, comme d'habitude. Il est bouleversé par Socrate, aussi bien intellectuellement que physiquement. Et il va avoir envie de Socrate. Et dernier pied de nez de Platon dans ce texte, Alcibiade et Socrate se retrouvent seuls. L'un et l'autre se désirent. Alcibiade dit à Socrate qu'il a envie de lui. On va dire les choses clairement aussi. Et puis Socrate, il a la migraine. Pour dire les choses, non, finalement, non. Non, non. Dernier pied de nez. Pourquoi? Et là, c'est toujours la même chose. La jouissance immédiate, dans le banquet, cette fois-ci, ce ne sera pas le cas, ce ne sera pas le lieu. Il y a le fait que tu me désires, c'est un nouveau moyen pour moi, Socrate, de briller par mon intelligence. Et d'ailleurs, Alcibiade le dit. Il dit à la fin, Socrate se refuse à moi, et ça m'énerve, profondément, parce que ça me frustre, mais en même temps, c'est pour ça que je l'admire. Et ça, c'est assez fort. C'est ce lien entre frustration, admiration, dialectique fabuleuse du désir, qui montre que, là encore, ce qui a été essentiel ici, et Socrate nous montre à la fin en se refusant à Alcibiade, créer de beaux discours. Je vous remercie.